Merci d'écouter RFI. 9h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Contner.
Dernière partie, nous sommes sur le continent américain. Durant la prochaine demi-heure, nous parlerons de l'ouragan Milton qui frappe la Floride. 4 morts au moins et des dégâts matériels considérables. Nous retrouverons aussi nos envoyés spéciaux en Louisiane. Vous le verrez, les agriculteurs sont de précieux appuis pour Donald Trump dans la campagne électorale. Nous appellerons comme chaque jeudi notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, pour parler notamment de cette nouvelle attaque commise par les gangs à Ponsondé en Haïti. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand. La situation se dégrade en Martinique. Une grande surface est partie en fumée la nuit dernière, ainsi que 2 gendarmeries.
Oui, 2 brigades de gendarmerie incendiées, des voitures neuves, des commerces, des barrages un peu partout. Nuit extrêmement chaude en Martinique que nous entendrons tout à l'heure. Aurélie Nella, la maire de la commune de Ducos, et Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale.
À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est le journal.
RFI Midi.
On vous retrouve, Karine Bellicha, pour parler d'abord du Liban où les affrontements se poursuivent.
Oui, le Hezbollah annonce avoir détruit un char israélien ce matin. Des soldats israéliens ont eux tiré sur des positions occupées par la force de l'ONU dans le sud du Liban à 3 reprises en 24 heures. 2 casques bleus ont été légèrement blessés au sein d'un des quartiers généraux de la Finule. Washington avait demandé aux autorités israéliennes de se garder de mener une offensive qui ressemblerait à celle de Gaza. Les Américains tentent-ils de temporiser ? Joe Biden a appelé hier le Premier ministre israélien, une première en presque 2 mois. Muriel Paradou.
Dans son entretien avec Benjamin Netanyahou, Joe Biden a rappelé le soutien indéfectible des États-Unis à son allié et le droit d'Israël à se défendre contre le Hezbollah, tout en demandant que les civils libanais soient épargnés le plus possible, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Il s'agissait du premier coup de fil entre les deux dirigeants en près de 2 mois. Leurs relations sont tendues, Joe Biden essayant de contenir, tant bien que mal, un Benjamin Netanyahou qui multiplie les offensives destructrices à Gaza, au Liban et sans doute bientôt en Iran. Mais selon le Wall Street Journal, les États-Unis pourraient aussi voir un intérêt dans la guerre menée actuellement par Israël contre le Hezbollah. Se débarrasser du mouvement chiite prédominant au Liban serait une opportunité pour sortir de l'impasse politique actuelle. Le pays n'a plus de président depuis 2 ans. Le Hezbollah, qui est aussi un parti politique, est accusé de bloquer le processus de désignation. Mais rappelle le journal, il s'agit d'un jeu dangereux. Se débarrasser du Hezbollah n'est pas si aisé et il à ses supporters, le pays, miné par des divisions, a déjà vécu une guerre civile meurtrière qui a duré 15 ans.
La guerre continue aussi à Gaza. Le Croissant Rouge annonce la mort de 28 personnes après une frappe israélienne sur une école de Deir el-Bala, dans le centre de l'enclave palestinienne.
Aux États-Unis, difficile encore de mesurer l'ampleur des dégâts provoqués par l'ouragan Milton.
Il a touché terre cette nuit en Floride. Les images montrent des arbres déracinés, des toits arrachés, des rues inondées. Des tornades se sont formées à plusieurs endroits. Milton faiblit, mais il est toujours dangereux. Les habitants sont appelés à rester calfeutrés chez eux ou dans les centres d'accueil pour ceux qui ont dû fuir. Plus de 3 millions de foyers sont privés de courant. Les autorités dénombrent déjà 4 morts dans l'est de la Floride. Un bilan très provisoire. Rien de comparable en France, mais le pays a essuyé une tempête cette nuit. La dépression Kirk a balayé la France d'ouest en est avec de fortes précipitations et des rafales de vent jusqu'à plus de 110 km/h. 6 départements sont encore placés en alerte orange crue et 2 en alerte rouge, dont la Seine-et-Marne à l'est de Paris. Pierre-Olivier, le pic de la crue a eu lieu à la mi-journée.
Oui Karine, car même s'il ne pleut plus sur la Seine-et-Marne, bien le Grand Morin, un affluent de la Seine, lui, déborde encore cet après-midi. C'est ce qu'on appelle l'onde de crue qui se propage bien après les précipitations. Alors la ministre de la Transition écologique s'est rendue en Seine-et-Marne ce midi et même si aucun blessé n'est à déplorer, eh bien plusieurs personnes ont dû être relogées car leur maison était inondée ce matin au réveil. Il y a une demi-heure maintenant, le département de l'Eure-et-Loire a lui aussi été placé en alerte rouge crue. Kirk a traversé la France toute la journée d'hier, mercredi, et une partie de la nuit. À Paris, les inondations ont perturbé ce jeudi plusieurs lignes de transport et le niveau de la Seine devrait frôler les 3 mètres en fin de journée, sans que cela n'ait pour autant de conséquences sur les Parisiens. Enfin, dans les Pyrénées et dans le Jura, 48 000 personnes sont encore privées d'électricité à l'heure actuelle, Karine.
Merci Pierre-Olivier. Toujours en France, l'exercice s'annonce périlleux. C'est en fin d'après-midi que le gouvernement dévoile son projet de budget pour 2025. Comment trouver 60 milliards d'euros, 40 milliards d'euros de réduction des dépenses sont prévus, ou faire des coupes plus les hausses d'impôts? Et puis comment le faire adopter par une Assemblée nationale si fragmentée? Réponse en fin d'après-midi.
Au Royaume-Uni, le gouvernement a lancé aujourd'hui un projet de réforme du droit du travail.
Un texte des travaillistes jugé ambitieux. De nouveau au pouvoir, ils entendent renforcer les droits des travailleurs. Comme promis pendant la campagne législative, les syndicats applaudissent, le patronat se méfie. Les détails de Émeline Vin.
Le projet de loi sur les droits des employés contient une petite trentaine de mesures destinées à améliorer les conditions de travail. Parmi les axes principaux, le mode de travail et l'accès aux indemnités. Sur le mode de travail, le modèle hybride, télétravail et présentiel deviendrait la norme. Interdiction de licencier les employés pour ensuite les réembaucher avec des contrats moins avantageux. Et surtout, fin des contrats zéro heure où les heures de travail varient chaque semaine et qui placent le salarié dans une situation précaire sans visibilité quand ces contrats peuvent être remplacés. Le texte entend aussi fournir davantage de garde-fous pour les employés, fin des 4 jours de carence en cas d'arrêt maladie, extension du congé paternité et parental, protection contre le licenciement abusif dès la période d'essai. Les syndicats saluent le projet de loi qualifié de victoire pour les salariés. Les représentants patronaux, eux, s'inquiètent des conséquences sur la productivité et des coûts. Le projet entre dans une période de consultation pour affiner les détails et il ne devrait entrer en vigueur qu'en 2026. Emeline Van Londres, RFI.
Et puis on va parler maintenant de la retraite d'une légende, Rafael Nadal.
Il a la réputation de ne jamais rien lâcher sur le terrain, pas un point, pas un match. L'Espagnol a un palmarès incroyable. Rafael Nadal va raccrocher la raquette et il l'a annoncé sur le réseau social X. Olivier Pron.
Je suis ici pour vous dire que je quitte le tennis professionnel. Les premiers mots d'un Rafael Nadal ému, mais sûr de lui, dans une vidéo de près de 5 minutes. La tête aimerait tant jouer encore, mais ce n'est hélas pour lui pas la vie de son corps, usé à 38 ans par 23 années passées sur le circuit et un jeu aussi étouffant pour l'adversaire qu'exigeant pour le physique de celui que l'on appelait notamment le génie de l'ocre, cette terre battue qui lui a permis de se bâtir l'un des plus beaux palmarès du tennis mondial. À Roland-Garros, le Mallorquin a glané 14 de ses 22 titres du Grand Chelem, une folie. Il aurait tant aimé finir ici, porte d'Auteuil, il en a rêvé toute cette année, imaginé qu'il pouvait encore réussir un gros coup pour et devant son fils, Rafa Junior, 2 ans. Pour ça, papa s'est entraîné dur, toujours, encore, il n'a jamais su faire autrement. Aujourd'hui, Nadal sait avec certitude qu'il ne pourra plus. 92 titres en tout glanés, 22 majeurs, 36 Masters 1000, l'or olympique en simple et en double, sans oublier pour l'heure 5 Coupes Davis. En attendant, qui sait, une 6e dans un mois pour que les adieux soient parfaits.
Merci Olivier Pron. Un mot de foot, les Bleus affrontent ce soir en Ligue des Nations l'équipe d'Israël à Budapest. L'UEFA interdit jusqu'à nouvel ordre l'organisation de matchs en Israël. L'équipe de France devra se passer de son capitaine Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann, nouveau retraité international. Il est presque 15h09 sur RFI. Voilà, c'est la fin de ce journal.
Merci Karine Bellicha. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un nouveau journal. Et nous sommes ensemble pour 20 minutes encore pour parler de l'actualité du continent américain.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Les images s'affichent en une de toute la presse aux États-Unis. L'ouragan Milton poursuit sa route en Floride. Et même s'il a été rétrogradé, il laisse derrière lui 4 morts au moins et des dégâts considérables. Christophe Paget, vous avez lu les journaux où l'on s'inquiète des conséquences à court et à long terme.
Oui, dans USA Today, un éditorialiste remarque que les infrastructures de Floride, pourtant habituées aux ouragans, semblent dépassées alors qu'elles en ont subi 2 coup sur coup, Helene puis Milton. Plus de 3 millions de personnes sont privées d'électricité, écrit le New York Times, un bilan qui augmente d'heure en heure. Milton a aussi, précise le Washington Post, causé des inondations allant, selon les ondes, de 3 à 4,50 m. Le quotidien revient sur les tornades qui ont précédé l'arrivée de la tempête. Tornades inattendues, beaucoup plus fortes et résistantes que d'habitude, qui ont tué plusieurs personnes à Fort Pierce. Quand Milton est finalement arrivé, ces vents ont arraché le toit du stade de baseball Tropicana Field dans la ville de Saint-Pétersbourg, un stade qui, rappelle le New York Times, était en train d'être converti en camp de base d'une capacité de 10 000 personnes pour faire face à l'ouragan.
Bref, l'ouragan Milton est terrifiant et ça n'est que le début.
C'est ce que dit dans le New York Times Porter Fox, l'auteur d'un livre sur les super-ouragans. Il explique que ce ne sont plus des aberrations, des catastrophes exceptionnelles ou des tempêtes du siècle, mais bien une nouvelle réalité due au changement climatique. Or, déplore l'auteur, non seulement beaucoup d'Américains refusent de croire qu'un super-ouragan peut les frapper, mais au niveau du gouvernement fédéral, ce n'est pas beaucoup mieux. Les assurances inondations restent optionnelles pour beaucoup d'habitants des côtes et des maisons continuent d'être construites et reconstruites dans des zones très exposées aux inondations. En plus, cette fois, avec Helen Hamilton, quelque chose semble s'être brisé, écrit l'éditorialiste de USA Today. En un temps record et à cause d'une campagne électorale surchauffée qui a transformé le pays, l'ouragan a cessé d'être notre ennemi commun pour devenir une occasion de confirmer nos préjugés, prendre l'ascendant sur quelqu'un d'autre, un sujet de prédilection pour les théoriciens de la conspiration.
Christophe Paget, vous restez avec nous, on va vous retrouver dans quelques minutes. Mais d'abord, on va continuer à parler des États-Unis, du passage de ces deux ouragans, leur gestion par les autorités qui font l'objet de très nombreuses fake news véhiculées par Donald Trump et par un certain nombre d'élus ou de proches de la sphère républicaine. Le candidat républicain a décidé d'en faire un sujet de campagne, l'un de ses thèmes de campagne du moins, parce que Donald Trump parle aussi beaucoup d'immigration et de l'inflation, son allié, car c'est un point très sensible et pourtant ça va mieux aux États-Unis. Mais la flambée des prix liée à la guerre en Ukraine a laissé des traces et beaucoup d'Américains restent déçus, frustrés, comme ces producteurs de coton de Frogmore en Louisiane, rencontrés par nos envoyés spéciaux Vincent Souriau et Julien Boileau.
C'est l'une des plus anciennes plantations de Louisiane. On y visite une dizaine de bicoques en bois, reliques du temps d'avant, où les esclaves noirs s'entassaient dans quelques mètres carrés et se cassaient le dos dans les champs de coton sans toucher aucun salaire. Terry Cators nous guide jusqu'à la maison du contremaître, chargé à l'époque de surveiller et de punir.
Il avait une terrasse de chaque côté, d'un côté pour guetter les esclaves pendant la nuit, de l'autre pour les surveiller lorsqu'ils étaient au champ. Ici, il posait les sacs de coton sur cette balance, il les pesait et il renvoyait les esclaves en cueillir encore plus.
Bien sûr, ça ne marche plus comme ça, mais le coton, lui, est toujours là, car la plantation Frogmore n'est pas qu'un site historique, c'est aussi une véritable exploitation agricole de 800 hectares, assortie d'une série de machines à égrener ultra-modernes, où l'on isole les fibres de coton qui serviront à l'industrie textile. Comment se porte le secteur ? Pas si mal, sourit Lindman, l'une des cadres de la plantation.
Le prix du coton fluctue quasiment minute par minute. C'est comme à la bourse. Il faut toujours garder un œil dessus parce que d'une minute à l'autre, il peut monter en flèche ou s'écrouler. À un certain moment, avant la guerre de sécession, le coton se vendait jusqu'à $50 la livre. À l'époque, on parlait du roi coton. Ça ne se vend plus aussi cher, mais on peut toujours bien en vivre.
Le marché, c'est le nerf de la guerre. À vue de nez, les cotonniers s'en sortent plutôt bien, mais Terry Cators, notre guide, qui est aussi agricultrice dans la région, nous l'assure, les prix ont dégringolé depuis que Joe Biden a pris la Maison Blanche.
On court à la ruine à cause de Biden. On la vendait 2,5 $ la livre de coton il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est 60 cents la livre. Il faut bien que quelqu'un en réponde de tout ça. Au moins Trump, il soutenait le coton, le maïs, tous les types d'agriculture. Il nous aidait, on touchait des subventions. On n'en a plus depuis que Biden est devenu président. C'est un type bien, je ne dis pas qu'il a tort sur tout. Je suis née démocrate. Je suis devenue républicaine. Et Trump, personnellement, je pense qu'il est fou. C'est un sauvage. Mais je m'en fiche, je veux juste être protégée.
Protégée en particulier de l'Inde et de la Chine, qui d'après elle pratiquent une concurrence déloyale vis-à-vis des producteurs de coton américains. Vincent Souriau, Julien Boileau à Frogmore en Louisiane, RFI.
Nos envoyés spéciaux à retrouver sur internet rfi.fr et en vidéo sur les réseaux sociaux. On vous retrouve Christophe Paget à présent pour la suite de votre revue de presse et pour parler de cette victoire de Javier Milei. Le président argentin a imposé sa volonté, son veto a été validé par les députés et le budget de l'université ne sera pas augmenté.
Oui, comme pour les pensions, la rigidité fiscale du président et son obsession à montrer sa force le conduisent à des conflits qui ont un coût politique élevé et qui s'écartent du mandat social ou vont à son encontre, affirme La Capitale. Le gouvernement a réussi à protéger son veto au Congrès, mais le conflit se multiplie avec des facultés et des rectorats occupés dans tout le pays et une grève dans toutes les universités, renchérit Parina Docé, qui s'insurge contre la vétocratie. Une victoire aujourd'hui et des problèmes pour demain, renchérit Clarine. L'éditorialiste se demande si Javier Milei, dont le gouvernement est en minorité à l'Assemblée, compte continuer à gouverner par l'intermédiaire de décrets et de veto qu'il oppose aux lois adoptées par le pouvoir législatif. Sachant que les alliances qu'il a réussi à boutiquer pour sauver son veto ne devraient pas résister à la perspective des prochaines élections et que selon la Constitution, les vetos et les décrets sont des outils exceptionnels.
Et puis en Colombie, le président Petro en appelle à la justice interaméricaine.
On le rappelle, il est visé par une enquête de l'autorité électorale pour dépassement des dépenses de campagne pour la présidentielle de 2022. Même si, écrit l'Universal, l'enquête commence à peine et qu'aucune résolution définitive n'a été prise, le gouvernement parle de coup porté à la démocratie. Alors, pourquoi saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la CIDH ? Le quotidien rappelle qu'en 2013, la CIDH, déjà saisie par Gustavo Petro, qui était alors maire de Bogota, avait tranché en sa faveur et annulé la destitution et les 15 ans d'inéligibilité dont il avait écopé. Dans l'affaire qui nous occupe, El Espectador se range du côté du président et estime que le Conseil national électoral abuse de son pouvoir pour obtenir des crédits politiques. Ce n'est manifestement pas l'avis du Conseil d'État colombien, puisqu'il a, rapporte El Heraldo, rejeté le recours en nullité qu'avait présenté l'avocat de Gustavo Petro contre cette enquête sur ses comptes de campagne.
La revue de presse, signée Christophe Paget.
RFI Midi. Cap Haïtien. 100.5 FM.
La presse toujours, mais en Haïti, nous sommes en ligne comme tous les jeudis avec notre confrère Franz Duval. Bonjour.
Bonjour Anne.
Rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, où l'on peut lire en une aujourd'hui qu'une nouvelle attaque a visé la ville de Ponsondé.
Tout à fait, une nouvelle attaque du même gang, le gang de Grand Griffe qui avait effectué le massacre de la semaine dernière. Cette fois, le gang a attaqué une autre petite localité proche de Ponsondé et a procédé à l'enlèvement de 5 personnes. Mais surtout, ils ont signé l'attaque en disant qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la région et que ni la police, ni l'armée, ni la force multinationale qui est déployée après le massacre de la semaine dernière ne pourra les arrêter dans leur exaction.
Un massacre qui avait fait plus d'une centaine de morts. La situation inquiète beaucoup. On peut lire par exemple dans votre journal France des critiques du coordonnateur du conseil d'administration de Ponsondé.
Tout à fait, et c'est le responsable de cette entité administrative qui explique que les autorités au plus haut niveau ne se sont jamais déplacées à Ponsondé pour venir constater sur le terrain qu'est-ce qui s'était passé et quels sont les problèmes de la population. Il faut dire que Ponsondé est à côté d'une grande ville qui s'appelle Saint-Marc. C'est à Saint-Marc que le premier ministre Gary Conille avait été. C'est à Saint-Marc aussi que sont installées les forces policières. Mais dans la province un peu plus reculée à Ponsondé, personne n'est arrivé et le président du conseil d'administration de la section communale se plaint de cette situation, explique que les ONG, le gouvernement, les autorités en général font leur cinéma loin de Ponsondé et ne viennent pas sur le terrain.
Alors, ces massacres ont attiré l'attention sur la situation dans ce département de l'Artibonite et vous avez pu avoir accès aussi à une demande, à une communication de Gonaïve Debout qui se désole de l'état de la police.
C'est une structure de la société civile au Gonaïve. Gonaïve, c'est le chef-lieu du département de l'Artibonite, là où il y a Saint-Marc et où il y a Ponsondé. Et cette structure explique qu'effectivement, des effectifs de la police sont arrivés dans le département. Ce n'est pas la première fois. Et ils dénoncent le fait qu'il ne faut pas oublier de leur envoyer à la fois des munitions, mais à la fois du carburant, à la fois les frais. En fin de compte, qu'il faut approvisionner les forces qu'on déploie dans la région. Dans le passé, la police nationale, le gouvernement a déjà envoyé des forces en renfort à ce qui existe déjà dans le département, mais on n'a jamais fait les suivis. On fait le transfert de forces, mais on ne continue pas l'approvisionnement et c'est souvent une des faiblesses des dispositions prises par la police nationale d'Haïti.
Et puis France, un petit mot encore, puisque vous consacrez un éditorial à nos zombies à Paris, c'est ce que vous écrivez.
Tout à fait, les zombies haïtiens sont à Paris, les zombies haïtiens ce sont ces morts-vivants, mais pas morts-vivants dans le sens où le cinéma ou Hollywood ont inventé les morts-vivants, mais en Haïti c'est une punition, c'est une société secrète qui se réunit et qui décide de faire d'un vivant qui a commis quelque chose de grave, d'un frère en mort-vivant. C'est une punition dans la tradition haïtienne, dans le vaudou haïtien. L'exposition au musée du Quai Branly rend hommage à cette spécificité haïtienne. Mais surtout, ce qui est dit dans l'éditorial, c'est qu'en Haïti, on n'aurait jamais osé faire une telle exposition. Parce qu'entre la peur et la honte, entre le respect pour ces questions-là, En Haïti, on n'y touche pas vraiment. Tout le monde sait que ça existe, mais on n'en parle pas vraiment.
Merci beaucoup, Franz Duval, d'avoir été en ligne avec nous. On peut vous lire sur lenouveliste.com en attendant de vous retrouver la semaine prochaine sur notre antenne. Vous nous parliez de l'insécurité, de ces massacres commis à Ponsondé. Cette situation, elle menace notamment les enfants. Des milliers d'entre eux souffrent de la pauvreté, de la faim, du manque de perspective et ils sont une proie facile pour les gangs. C'est l'alerte lancée par Human Rights Watch. Écoutez Nathalie Cotrino, elle est chercheuse au bureau de crise, conflits et armes de l'ONG.
On estime que 30% des membres des groupes criminels sont des mineurs. Et ce que nous avons identifié dans notre dernier rapport, lors de notre dernière visite fin juillet, c'est que ce chiffre est en augmentation. Ces groupes accueillent plus d'enfants et de mineurs pour se préparer à de possibles opérations et confrontations avec la police nationale haïtienne et avec la mission d'appui à la sécurité autorisée par les Nations Unies l'année dernière. Tous les enfants avec lesquels nous avons parlé nous ont dit que la faim est la principale raison pour laquelle ils rejoignent les groupes criminels. La majorité de ces mineurs vivent dans des conditions de nécessité extrêmes, dans les rues, sur les places publiques. Donc la raison principale, c'est la grave situation humanitaire qu'affrontent ces mineurs. Ils vivent dans des zones où l'État n'est pas présent, ils sont complètement abandonnés. Ils n'ont pas accès à l'alimentation, à la santé ou à d'autres services de base. Pour cette raison, ils considèrent que les groupes criminels, c'est le seul endroit où ils pourraient obtenir au moins à manger et un refuge.
C'est l'unique lugar donde effectivamente ellos podrían obtener por lo menos alimentación y un refugio.
Nathalie Cotrino, chercheuse au bureau de crise, conflits et armes de l'ONG Human Rights Watch.
RFI Midi, Anne Contner.
Nous allons parler culture à présent avec la cinéaste haïtienne Jessica Généus. Elle préside le jury du festival du film documentaire Amazonie Caraïbes qui se déroule en ce moment sur le site de l'ancien bagne de Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni. Le public peut y découvrir en plein air des films venus du Brésil, de Colombie, du Suriname ou encore du Costa Rica. Ce festival, c'est l'occasion de découvrir de jeunes auteurs. Et pour Jessica Généus, de revenir à Saint-Laurent. Elle l'a confié à Sophie Torlotin avant de s'envoler pour la Guyane.
C'est comme on dit, la boucle est bouclée, c'est ça? Parce qu'il y a 10 ans, très exactement, hein, je me rendais à Saint-Laurent pour faire ma résidence, pour travailler sur mon premier documentaire, Le jour se lèvera. Et c'est à Saint-Laurent que j'ai rencontré Vanina et Didier qui organisent le festival, mais aussi tout le groupe qui va créer Tank aujourd'hui comme plateforme.
La plateforme documentaire.
Exact, la plateforme documentaire. Et c'est avec eux que j'ai travaillé mon film. C'est avec eux que j'ai découvert vraiment c'est quoi le documentaire de création. C'est vraiment Saint-Laurent, c'est mon lieu de naissance, j'ai envie de dire, quelque part, oui. En plus, le jour se lèvera, justement, le documentaire a été présenté à la première édition du festival et avait eu le grand prix du festival.
Parce qu'on imagine, alors je ne sais pas, vous pouvez peut-être nous décrire, à nous qui ne connaissons pas Saint-Laurent-du-Maroni, ouais. On est où? On est au...
Ah non, mais on est en Guyane française. C'est le Saint-Laurent qui sépare, je pense, le côté guyanais et le côté surinamais. Et là, c'est tout un écosystème de gens. Enfin, j'adore cet espace parce que tu as l'impression d'être dans un no man's land. C'est comme si ça n'existait pas parce que toutes sortes de cultures qui se rejoignent. La première fois que j'ai été, c'était vraiment une surprise, comme un choc de me dire que ce côté multiculturel, ce côté cosmopolite, mais aussi, tu vois le drapeau français quelque part, puis tu te dis qu'est-ce que ça fait là, parce que ça avait tellement, c'est tellement dépaysant, t'es ailleurs, tu vois.
Jessica Généus, on se souvient que Freda, en 2021, avait eu un grand retentissement au Festival de Cannes et avait eu une vie partout dans le monde. Où est-ce que vous en êtes 3 ans après? Est-ce que vous êtes déjà en préparation d'un nouveau projet?
Oui, j'ai fait récemment la résidence du Festival de Cannes. Donc mon film Marie-Madeleine a eu le prix du meilleur pitch. Et à partir de ça, on a, avec mon producteur Jean-Marie Gigon, on est en train de faire le montage financier du film. On a un coproducteur québécois dessus. On essaye encore avec la Belgique et l'Allemagne pour que justement on puisse créer des possibilités pour qu'on soit en production le printemps prochain.
Et un film qui sera tourné donc à
complètement
Haïti,
en Haïti,
comme Freda.
Écoute, le jour où je ne fais pas le film en Haïti, je pense que je vais quasiment peut-être même arrêter de faire du cinéma parce que c'est ça qui fait du sens pour moi. C'est raconter mon pays et raconter Haïti dans un autre pays, ça c'est pas possible parce que justement à cause de tous les problèmes qu'on a eus, souvent on me fait la proposition d'aller tourner ailleurs. Et je dis, ça veut dire que dans 50 ans, quelqu'un va regarder ce film et il va croire que ça c'est Haïti alors que c'est Guadeloupe, Martinique. C'est compliqué. à quel moment nous, on va exister. Un film, même si c'est de la fiction, c'est quand même avant tout une documentation, c'est la documentation d'un espace. Je pense que je suis bien entourée, c'est ça qui fait quelque part ma force, parce que mon producteur français, il comprend aussi, il fléchit pas. Et on attend d'avoir ce qu'il faut pour faire ce film, là, pour le coup, dans le sud, à Jacmel. J'ai déménagé récemment là-bas parce que j'en pouvais plus avec Port-au-Prince, là, tout son délire. Il y a quand même la possibilité d'avoir une certaine forme de paix en dehors de Port-au-Prince.
Jessica Généus, présidente du jury du Festival du film documentaire Amazonie-Caraïbes, qui se déroule en ce moment en Guyane. Elle était au micro de Sophie Torlotin lors de son passage à Paris il y a quelques jours.
RFI à Saint-Laurent, 98.7 FM.
Et on va rester dans les Outre-mer françaises avec vous, Benoît Ferrand. En Martinique, d'abord, où la situation se dégrade, la nuit dernière, deux gendarmeries et une grande surface sont parties en fumée.
Deux brigades de gendarmerie en feu au Carbé et à Rivière-Salée, des voitures neuves incendiées du côté du port de Fort-de-France. Des commerces ont également été la proie des flammes. La nuit, c'est le cas de le dire, a été extrêmement chaude en Martinique, avec aussi des barrages improvisés un peu partout. Écoutez, la maire de la commune de Ducos, Aurélie Nella, elle intervenait en direct ce matin dans le journal de 7h, 13h, heure de Paris. En direct donc sur les antennes de la Première Martinique.
Au départ, on a un combat contre la vie chère qui est totalement légitime avec des revendications qu'on peut comprendre et que tout un chacun, je pense, peut partager. Et il y a eu aussi une attente très forte des négociations. Et d'ailleurs, aujourd'hui doit se dérouler une nouvelle table ronde et on espère que toutes les parties prenantes, et notamment l'État, donneront un signal et annonceront des mesures à la hauteur de la situation pour qu'on retourne au calme. Alors bien évidemment, il faut condamner la violence, surtout lorsqu'elle est gratuite, surtout lorsqu'elle est perpétrée par des personnes qui ne défendent pas forcément ce leitmotiv de lutte contre la vie chère, mais qui profitent de la situation pour faire des dégradations. Mais le combat reste légitime et il faut qu'il aboutisse et qu'on retourne à un apaisement à Ducos, mais pour toute la Martinique.
Alors, en ce qui concerne la table ronde, la énième table ronde sur la vie chère, eh bien, elle se tiendra dans les locaux de la collectivité territoriale. Le président de la CTM, Serge Letchimy, l'a confirmé, lui aussi, en direct sur les ondes de la Première.
Je demande à tout un chacun de tenir compte. Nous sommes actuellement en discussion, en négociation, et nous n'avons pas lâché sur la négociation de telle sorte qu'on puisse répondre de manière extrêmement claire à la question de la vie chère. C'est la détermination de la collectivité territoriale de Martinique et c'est ma détermination aussi. C'est pour ça que j'appelle au calme. Je demande aux Martiniquais et aux Martiniquaises de retrouver la sérénité, de nous laisser aussi les marges pour lutter et combattre dans le dialogue et de la discussion. C'est extrêmement important pour nous. Nous avons un pays que nous aimons. Il faut bien sûr manifester, mais il faut éviter le chaos. Et notamment des choses qui peuvent conduire à des blessés et à des morts, quel que soit le bord. Nous voulons absolument appeler à la sérénité, à la paix. La table ronde se tiendra. J'ai décidé de maintenir la table ronde à la collectivité territoriale parce que, pour une raison très simple, c'est que nous aurons besoin de réponses rapides et urgentes et connaître la teneur des réponses et la durabilité des réponses que nous allons nous apporter. Si on ne discute pas et on ne fait pas la table ronde, on n'aura pas ces réponses-là.
Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale de la Martinique. La table ronde est censée démarrer dans une demi-heure maintenant à 10h, heure de Martinique, c'est-à-dire 16h, heure de Paris. Bon après-midi Anne, à demain.
Merci Benoît Ferrand et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Yann Eligouin. Vous restez sur notre antenne dans 30 secondes, un tout petit peu plus. Pascal Paradou pour son émission de vive voix avec son invité, le comédien et metteur en scène Rudy Milstein. Très bonne journée à tous.
RFI à Cayenne, 98.7 FM. RFI, la sélection du mois.
Enka Divine.
Oui, maman,
et DJ Pete.